Bonjour à toutes et à tous. Rapidement et pour démarrer, merci de m'avoir invité, de nous avoir invités avec mon collègue Denis Tricouard, là, de la Fédération nationale. Et bravo pour ce qui est engagé là, parce que je crois que ça va vraiment puissamment nourrir l'ensemble du réseau des centres sociaux à l'échelle nationale. Vous avez fait ce qu'on a rêvé de faire depuis un moment, à la Fédé nationale ou dans le réseau, c'est que cette collaboration, ce travail associé entre les centres sociaux, les FESEU, comme on s'appelle souvent, et les chercheurs, elle est juste primordiale pour nous continuer à avancer. Et puis, ça a été dit ce matin, pour nous permettre de comprendre ce qui se joue sur un certain nombre d'enjeux et du coup de pouvoir affûter, ajuster notre projet pour pouvoir contribuer à une société meilleure, à des territoires et à une société meilleure en France. Donc, bien évidemment, ravi, on a vraiment envie de passer les deux jours avec vous, de nous imprégner, et on verra aussi avec la Fédération et peut-être les chercheurs, voir comment on va pouvoir s'appuyer nationalement, enfin dans l'ensemble du réseau, sur tous ces travaux-là. Donc, je suis le délégué général de la Fédération nationale, mais j'ai aussi été sur le terrain dans les centres sociaux. J'ai été délégué régional auparavant en Rhône-Alpes, mais directeur de centre social, administrateur, etc. dans ma courte vie de militant. Deux mots juste pour dire ce que c'est que le réseau des centres sociaux en France, enfin, quatre chiffres. Il y a 1300 centres sociaux dans le réseau national, sur les 2200 centres sociaux qui existent en France. Juste pour vous dire quand même, ça représente en France 45 000 salariés, 150 000 bénévoles impliqués autant dans les instances que dans les activités. Enfin, nous sommes nationalement un énorme et un très gros et très beau réseau. Ça a été dit dans la plupart de vos documents. Pour dire rapidement comment nous on conçoit ce qu'est un centre social. Alors, la charte de 2000 des centres sociaux dit que le centre social, c'est un foyer d'initiative sur un territoire qui est porté par des habitants associés, appuyé par des professionnels et en capacité de conduire un projet de développement social local sur le territoire. Plus concrètement, dans quelques travaux qui ont été menés dans le réseau, on a un peu identifié cinq fonctions qu'a un centre social sur son territoire. Et normalement, tous les centres sociaux devraient pouvoir se reconnaître plus ou moins dans chacune de ces fonctions-là. La première, alors elles ne sont pas hiérarchisées, mais la première fonction d'un centre social sur le territoire, c'est cette dimension d'accompagnement de collectifs d'habitants et de projets. On y reviendra, j'imagine, assez longuement pendant les deux jours. Il y a aussi, bien évidemment, une fonction d'activité et de service. Avec une spécificité, c'est que dans un centre social, on ne construit pas une activité et un service de façon hors sol. On l'a construit par rapport à un diagnostic social. On l'a construit parce qu'on a co-construit le besoin, enfin, on a identifié le besoin avec des habitants, avec des partenaires, qui est quand même un élément important. Une dimension plus globale de l'animation de la relation entre les élus et les habitants, la dimension plutôt du débat démocratique. Alors, on discutait ce matin rapidement avec Catherine, notamment sur cette fonction-là, plutôt de l'intermédiation, de cette capacité à mettre des personnes ensemble dans une salle pour qu'elles puissent débattre. Je me demandais, mais je sais que ça va être abordé cet après-midi, j'avais envie de vous sonder pour savoir qui dans les centres sociaux avait mis en place des débats sur la question par exemple de la retraite là aujourd'hui, mais je sais que ça va être discuté cet après-midi, donc on y reviendra. Mais voilà comment le centre social est un espace qui permet à des gens de se rencontrer et de débattre d'un certain nombre de choses importantes qui se passent dans les territoires, mais aussi plus globalement. Une autre fonction qui est très proche, qui est plutôt une fonction d'éducation populaire tout simplement, alors plutôt dans le sens de Paolo Freire, c'est comment on est en capacité dans les centres sociaux de créer les conditions pour que des gens se réunissent et comprennent le monde dans lequel ils sont pour potentiellement pouvoir y agir. Et puis une dernière fonction qui est importante et qu'on retrouve dans l'agrément de la CAF sur la dimension coordination, c'est comment aussi le centre social, en plus d'agir directement dans la proximité avec les habitants et les partenaires et les élus, etc., du territoire, est aussi un facilitateur du maillage territorial, alors souvent sur les thématiques qu'on travaille, l'enfance, la jeunesse, la famille, etc., mais aussi plus globalement, on a un rôle d'agent de développement local qui doit permettre aussi de faciliter la vie des acteurs du territoire. Le développement du pouvoir d'agir est arrivé aussi au début des années 2000 dans le réseau des centres sociaux, dans certains départements où les choses se sont mises en place, à partir de trois univers un peu différents. Le premier, je le citais, c'est une inspiration plutôt d'Amérique du Sud et un peu Paulo Freire, notamment par un compagnon de route qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Michel Séguier, qui était psychosociologue, qui avait travaillé avec Paulo Freire en Amérique du Sud, et qui a été un de ceux qui a contribué à introduire la notion de développement social local en France dans les années 70. Et on avait cheminé dans plusieurs fédés avec ce monsieur, et il a été un inspirateur et un compagnon vraiment très important. Deuxième élément deuxième chemin là, dont on s'est inspiré, c'est la question du community organizing, c'est la question, enfin c'est Saul Alinsky et l'Amérique du Nord, où aussi dans le réseau un certain nombre de personnes qui étaient allées en Amérique du Nord avaient rencontré un certain nombre d'acteurs, et se sont inspirés de toute cette approche de Saul Alinsky. Je crois qu'on va reparler aussi un peu de community organizing demain après-midi, mais là aussi cette dimension-là nous a inspiré, nous a fait bouger. Puis la troisième, ça a été la rencontre avec un chercheur dont on entend parler souvent, mais ce n'est pas le seul inspirateur du réseau des centres sociaux, c'est Yann Lebossé, le Québécois, le Français immigré au Québec, dont on s'est aussi inspiré à partir du début des années 2000 pour nos travaux et nos réflexions. Et du coup, aujourd'hui, une des définitions qu'on a dans le réseau des centres sociaux sur le scale des PA, elle est un peu inspirée de Paulo Freire, je confonds Paulo Freire et Yann Lebossé, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Elle est un peu inspirée d'Yann Lebossé, même si je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toutes ces inspirations-là de façon plus complexe qui sont derrière. Et on dit souvent que c'est la capacité concrète pour les personnes et les groupes d'agir sur quelque chose qui est important pour eux de façon assez simple. Et c'est donc un processus où effectivement un processus de personnes qui se mobilisent individuellement, mais dans les centres sociaux, on espère aussi, et plutôt collectivement, pour pouvoir agir sur quelque chose d'important pour eux. Et du coup, plutôt que de vous en dire plus, j'avais juste envie de vous raconter une toute petite histoire d'une action repérée dans le réseau, pas dans votre région, mais vous allez certainement la reconnaître sur des petits bouts de choses, de ce que pourrait être un processus de développement, un processus de développement du pouvoir d'agir à la sauce centres sociaux. Et cette histoire, elle se passe dans la Drôme, dans une petite ville où il y a un quartier d'habitat pavillonnaire qui s'est énormément étendu. Et ce quartier d'habitat pavillonnaire est passé de 5 000 à 15 000 habitants en 15 ans. Sauf que l'ensemble de l'organisation, notamment des transports et des transports scolaires, sont restés figés à la taille des 5 000. Et du coup, au centre social du quartier, un certain nombre d'habitants râlent régulièrement à l'accueil lorsqu'ils viennent prendre le café, lorsqu'ils viennent rencontrer, lorsqu'ils viennent participer à une activité, etc. L'équipe du centre social, au bout d'un moment, se dit, mais il y a vraiment un truc qui ressort souvent là. Est-ce qu'on a quelque chose à faire autour de ce truc-là? Parce qu'on entend. Mais on ne sait pas quoi en faire. Et en se réunissant, ils se disent, peut-être qu'on pourrait proposer aux personnes à chaque individu qui râle autour de ce truc-là, d'essayer de se mettre à plusieurs pour voir s'il y a quelque chose à faire de façon collective autour de cette question-là. Je vous passe le processus parce que ça dure 6 mois jusqu'à ce que 15 personnes se réunissent effectivement pour se mettre autour de la table. Pendant ce temps, les gamins qui habitaient au bout du quartier, sur la question du transport scolaire, continuaient à marcher 2 km le matin pour venir à l'endroit où les bus partaient pour aller au collège, etc. Mais ça met 6 mois. Ça met 6 mois parce qu'on ne sait pas par quelle boule prendre, on ne sait pas comment le dire aux habitants. Les habitants disent « mais on ne peut rien faire ». Les habitants disent « mais j'ai déjà appelé la régie de transport, ils disent que ce n'est pas à eux de décider. J'ai déjà appelé la mairie qui dit « c'est pas à nous de décider, c'est à la régie de transport, les choses tournent en rond, on ne peut rien faire ». Donc voilà ce sentiment-là. Au bout de 6 mois, une quinzaine de personnes se mobilisent effectivement. Et en une soirée, ils se disent qu'effectivement, à 15, ils vont tenter de rentrer et de faire pression sur la municipalité pour que les choses bougent. Ils se mobilisent, la municipalité hyper bienveillante vient participer à une discussion, mais elle leur explique que c'est la régie de transport qui décide, c'est pas eux. Et puis comme c'est en lien avec des transports scolaires, il y a d'autres financeurs, enfin, les habitants sont complètement noyés. Et du coup, ils décident qu'il faut qu'ils comprennent mieux quelle est la réalité de qui finance le transport scolaire, comment ça se passe, et ils font intervenir un certain nombre de personnes extérieures, des professionnels de la question, qui viennent leur expliquer de façon beaucoup plus concrète qui finance ça, comment ça se passe, c'est la responsabilité de qui, politiquement, enfin, etc. Ils comprennent mieux, ils affûtent du coup leur stratégie, et ils retournent voir effectivement un certain nombre d'interlocuteurs qui continuent à tenter de botter en touche pendant un moment. Jusqu'à ce qu'effectivement, ils arrivent à créer un groupe qui est plutôt d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de familles, et que là, globalement, et la collectivité et la régie de transport commencent à se dire là, le rapport de force commence un peu à bouger, et ils reviennent avec effectivement un certain nombre de propositions. Et là, on arrive au mois de juin. Et effectivement, en mois de septembre, le combat est gagné. Les transports scolaires, en plus, c'était compliqué, hein, parce que c'était pas juste une ligne. Il fallait démultiplier les nombres de lignes. Mais la situation évolue à partir du mois de septembre. Ce qui n'empêchera pas un paquet d'habitants de rester dans une vraie frustration, de dire mais c'est pas normal, comment ça se passe, etc., etc. Et un certain nombre d'autres qui sont tout à fait contents de l'évolution de cette chose-là. Et quand on étudie un petit peu le groupe d'habitants et les 15 notamment qui étaient dans le noyau, 2 étaient auparavant investis dans de la vie associative, les 13 autres n'avaient jamais été investis dans aucune dynamique collective, et 2 d'entre eux, 3 d'entre eux, disent clairement après ça, c'est ce qui m'a donné envie de m'engager, certains dans le centre social, d'autres dans d'autres associations, etc. Alors je dis ça, c'est parce qu'on a fait un vrai travail un peu d'études, dans le cadre d'un mémoire Sciences Po, enfin, ou qui avait étudié le truc, parce que sinon ces trucs-là, d'habitude, on ne les voit pas du tout dans notre réseau et on n'est pas en capacité de savoir ce que ça produit concrètement, concrètement pour les personnes. Donc on voit bien, écoute, cet enjeu-là, cette capacité à se positionner avec, à côté, mais pas au centre, parce que ce qu'on a vu très souvent dans le réseau des centres sociaux, c'est que quand les habitants viennent râler autour d'une question, soit on ne sait pas quoi en faire, soit on se pose non pas en intermédiation pour créer la relation et le dialogue entre les décideurs et les habitants, on se met en intermédiaire et on empêche bien souvent finalement, et on dit souvent aux habitants, on va aller voir la mairie, on va aller voir la régie de transport, puis 2 mois plus tard on dit désolé, ça bouge pas, ce qui laisse complètement les habitants dans l'impuissance par rapport à cette question là et ça pose des vraies questions sur la dimension politisation. Je finis sur quelques éléments du coup de transformation en cours dans notre réseau par rapport à 1 minute 30, j'ai
1 minute 30.
Quelques éléments pour dire de choses qu'on observe quand même qui bougent dans notre réseau. C'est la question de l'écoute et du aller vers. Ce qui est en train de bouger dans notre réseau, c'est qu'avant, on écoutait les habitants un peu, mais surtout, on allait vers eux, mais souvent pour leur vendre l'activité du centre social. Ce qui est en train de changer, c'est qu'on est en train de comprendre qu'il faut aller vers les habitants, mais plutôt pour écouter ce qui est important pour eux et chercher de la matière qui permettraient éventuellement de se mettre en route à leur côté pour essayer de changer les situations. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est globalement en cours. Une deuxième, c'est la question de la posture, mais je sais que ça va sortir beaucoup. On s'est mis au travail sur la question de la posture dans le réseau. On comprend bien que faire participer des habitants à quelque chose qui est décidé par un conseil d'administration, c'est pas la même chose que d'accompagner un collectif d'habitants qui a décidé ce qui était important pour lui. Et ça vient complètement nous bousculer dans nos postures professionnelles et nos postures militantes d'administrateurs, etc. Et puis, une troisième chose, c'est que ça vient vraiment interroger la notion de politique dans notre réseau. Et moi, j'attends notamment de ces deux jours-là qu'on clarifie ensemble cette dimension-là de c'est quoi la politique dans notre réseau. On entend tellement souvent dire mais on ne fait pas de politique dans le réseau des centres sociaux, alors que pour moi, quand on accompagne un collectif d'habitants qui vit une injustice parce qu'ils habitent au bout du quartier, que là-bas il n'y a pas de transport scolaire, alors que d'autres ont accès au transport scolaire, on fait éminemment de la politique. Et il me semble qu'il y a un enjeu majeur à clarifier ce qu'est la question de la politique. Et puis un petit témoignage pour finir dans les 30 secondes qui me restent. Un des éléments qui fait levier aujourd'hui dans notre réseau, et du coup c'est chouette parce que vous êtes une fédération toute jeune dans l'histoire du fédéralisme national, et il y a un certain nombre de fédérations qui depuis 15 ans, ont mis en place un certain nombre de formations où on va beaucoup questionner la question de la posture, de la stratégie, du comment être avec, comment un centre social peut à la fois accompagner des habitants qui revendiquent, veulent agir sur une injustice vécue, et en même temps sans nous mettre en porte-à-faux par rapport à nos financeurs, un truc assez central qui souvent nous empêche d'agir. Et on voit bien que dans ces formations-là, où on forme non pas un individu par centre social, mais des équipes de centres sociaux, eh bien, petit à petit, les curseurs sont en train de bouger et on ose expérimenter du aller vers, de l'identification de situations problèmes que des habitants vivent et se dire on a à accompagner ça. Et on ose aussi travailler du coup, plutôt que de rejeter parce qu'on a peur, on ose aussi travailler, mais qu'est-ce que ça vient questionner sur notre positionnement par rapport à nos financeurs, par rapport à nos partenaires? La peur peut parfois nous empêcher d'agir, alors qu'on voit bien qu'il y aurait peut-être besoin. Ben finalement, scoltiner cette complexité-là de notre positionnement fait que bien souvent, on arrive à trouver des chemins qui nous permettent d'être avec les habitants là-dessus. J'avais encore 19 choses à vous dire, mais je m'arrête là parce que les 30 secondes sont passées. Merci.
En fait, c'est pour laisser le temps au débat. Voilà. Donc, sans plus tarder, je passe... Oui, vous pouvez applaudir, absolument. Absolument. Oui, bien sûr. Thank you.